On va ouvrir notre Bible pour continuer à étudier cette épître de Jacques. On va lire au chapitre 5, les versets 1 à 6. Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6. À vous maintenant riches, donc ça ne nous concerne pas, hein. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et le cri des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Arrêtez là. Beaucoup de choses à dire. On parle depuis un petit moment de cette épître de Jacques qui nous rappelle que les chrétiens étaient dans l'épreuve, dans la difficulté et proie à plusieurs tentations, la vengeance et d'autres choses. Et là, il se focalise sur les richesses. On avait parlé de la manière d'employer, enfin de faire nos projets, peut-être de vie, mais là, il va parler de ces riches. Alors je disais ça ne nous concerne pas parce que c'est vrai, je ne pense pas qu'il y ait des milliardaires ici. Milliardaires. Ce serait bien par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, hein, mon frère. Mais on peut tirer aussi des leçons en tant que chrétien, tout simplement, avec nos petits comptes en banque. Il y a des choses à apprendre aussi là-dedans. Et surtout, celui d'employer nos richesses pour Dieu. Jacques va faire plusieurs reproches. Et le premier, c'est de dire à ses riches qu'ils accumulent, mais en vain. Beaucoup d'argent, beaucoup de choses dans leur coffre-fort, mais qui ne servent à rien. Et il les avertit. Alors, on peut se poser la question, qui sont ces riches? Certains pensent que c'était des commerçants, peut-être des chrétiens ou pas. Pas vraiment l'impression d'être des chrétiens, mais bon, des fois il y a des chrétiens aussi qui sont radins, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'était une classe sociale dans l'époque et qui était là accusée en fait d'opprimer et d'exploiter tout simplement les pauvres. Ça, depuis, on a oublié, ça n'existe plus. Et là, ça continue, c'est même pire. Et dans l'épître, certains pensent qu'il s'agissait là de propriétaires palestiniens, tout simplement, et qui cherchaient à faire un maximum de bénéfices, chose qu'on connaît encore aujourd'hui et qui ne changeront jamais, je pense, dans le reste de l'existence humaine. Mais ça peut aussi nous concerner, nous aussi, parce que nous, on se voit en France à râler tout le temps parce qu'on n'a pas assez d'argent, etc. Mais si je me compare à un pays du tiers-monde, à des enfants qui ne mangent pas tous les jours, on est riche, très riche. L'air de rien. On ne se rend pas compte. Donc, quelque part, sans être un Crésus, parce que personne n'est, mais on peut quand même essayer de tirer des leçons et se dire que nous aussi, on a la chance en France d'être riches, en tout cas de vivre bien, tout simplement. Jacques reprend et développe donc un thème biblique qui était fort répandu, parce que dans tout le reste de la Bible, on en parle bien souvent, et là, il va employer le ton prophétique, puisqu'il va dire « pleurez et gémissez ». Et souvent, les prophètes faisaient de la même manière. Il agit un peu comme un prophète qui avertissait le peuple à l'époque. Et là, il avertit justement ses riches. Et ce qu'il veut leur dire surtout, c'est que vous vivez comme vous avez envie, mais Dieu, il voit, il entend, il sait absolument tout. Et il se préoccupe justement des pauvres. Dans la loi, autrefois, les pauvres étaient bien protégés par la loi, justement. Et ça continue encore aujourd'hui. Dieu entend le cri des pauvres. Et eux, pendant ce temps-là, ils s'enrichissent sur leur dos. Chose qui continue aujourd'hui, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Mais là, il y avait la tentation, et c'est peut-être notre tentation à nous des fois en tant que chrétiens, quand on regarde notre compte en banque à la fin du mois en se disant « il n'y a pas grand-chose, hein. On aimerait bien en avoir un petit peu plus ». Et quand on contemple ces gens qui ont plein d'argent, on dit « ben, on est un peu jaloux des fois, hein. On a bien gagné au loto, non? Il faut déjà y jouer ». Bon, je ne sais pas, vous ne jouez pas, ça ne sert à rien. Mais on est des fois un peu jaloux quand même de ces gens qui vivent un peu mieux que nous, qui ont la capacité de faire des projets mieux que nous, etc. Et justement, Jacques les avertit là, ne soyez pas tentés par devenir riches ou avoir énormément de richesses. Calvin disait, en avertissant un peu, c'est un peu du vieux français, mais afin qu'à l'ouïe de la fin misérable qui guette le riche, les fidèles ne soient pas tentés de convoiter leur fortune, et qu'à l'annonce de la vengeance que Dieu exercera contre ceux qui les ont exploités, ils puissent supporter les injustices calmement et avec résignation. Il dit simplement qu'il est préférable des fois de subir peut-être ce que font les riches, plutôt que de terminer comme eux à la fin. Parce que comme le dit Jacques, la fin des riches n'est pas terrible. n'y a pas que les riches, hélas. Hein. Mais en tout cas, eux, ils iront facilement en enfer. Ça ne veut pas dire que tous les riches iront en enfer, on est bien d'accord. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont riches et qui servent le Seigneur avec cet argent aussi, n'oublions pas. Mais la plupart s'en fichent. Vous savez, une fois que vous êtes riche, vous avez la maison, les voitures, les jets et tout ça, vous croyez que vous avez besoin de Dieu, honnêtement, tout va bien. Il n'y a aucun souci dans la vie. Oh, peut-être l'entreprise des fois, mais bon, c'est pas grave. Et on n'a pas besoin de Dieu, c'est ça le problème. Et vouloir être riche, ça sous-entend aussi souvent sacrifier sa famille, parce qu'on doit travailler. Sacrifier ben, peut-être l'Église, parce que si je suis chrétien et que je veux m'enrichir, ben, le dimanche je vais travailler aussi ou faire mes comptes, et donc forcément je vais sacrifier la vie d'Église, et tout doucement je deviens de plus en plus avare, de plus en plus égoïste. On s'en rend même pas compte, je crois, au fur et à mesure. Jacques emploie le mot « riche » un peu aussi comme quelqu'un qui est injuste. Il parle de ces riches qui sont injustes, de toute façon par leurs actes, ils sont totalement injustes, mais il y a l'idée là aussi. Et c'est l'utilisation ou la manière de s'approprier ces richesses qui font qu'ils sont injustes. Mal utilisés en tout cas, ils sont injustes dans la manière de le faire. Mais si Dieu nous offre des richesses, et il le fait des fois des chrétiens aussi, et qui sont fortunés, mais il fait pour que nous puissions investir pour lui, dans son royaume. Il y a un grand... un homme qui était très riche, qui donnait 90% de ce qu'il gagnait. Vous imaginez, 90%. Bon, quand vous gagnez 1 million par mois, ça laisse quoi, 100 000 euros encore pour le mois? Je pense qu'on peut à peu près s'en sortir avec 100 000 euros. Vous, peut-être pas, mais moi, hein, en tout cas. Mais voilà, Dieu permet des fois qu'il y ait des gens qui aient de l'argent, mais c'est pas pour eux-mêmes, c'est pour faire profiter l'Église. Et combien on a besoin de payer des pasteurs, peut-être, acheter des bâtiments, etc., etc. Donc Dieu permet les richesses, mais si moi je les emploie mal, c'est là où Dieu n'est pas content. Parce qu'il permet que quelqu'un soit riche pour agir pour lui, mais si moi je l'emploie uniquement pour moi, bah forcément il n'est pas heureux. Donc Jacques avertit que jalouser la richesse est totalement vain, et tout particulièrement par rapport à ce qui va attendre ses riches. Donc soyez plus jaloux parce que quelqu'un est plus riche que vous, soyez content d'avoir ce que vous avez, c'est déjà pas mal, par rapport à d'autres pays, et il faudrait plutôt remercier le Seigneur plutôt que de se lamenter comme aiment bien faire les Français. Je suis un Français, donc je sais de quoi je parle. Il va, dans un deuxième temps, montrer trois négligences des riches, à partir du verset 3. Premier, c'est de négliger l'accumulation des richesses, alors que ça pourrait servir à d'autres. Eux accumulent, et à un moment, ils en ont tellement que c'est plus quoi en faire, et ça pourrit, et ça sert à rien, finalement. Il énumère les richesses. Alors à l'époque, ce n'était pas des lingots d'or forcément, mais on parle de richesses agricoles, avoir beaucoup de vêtements, hein, de l'or, de l'argent. Mais toutes ces choses-là, il les accumulait. Et à force ben, d'en avoir, ben, tout ça, ben, ça pourrissait dans un endroit. Ça ne sert à rien d'accumuler si on n'investit pas. Ça ne sert à rien d'accumuler si on ne veut pas s'en servir. Saint-Exupéry disait « En travaillant pour les seuls biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. » Nous enfermons solitaires avec notre monnaie de cendre qui ne procure rien qui vaille. À force d'accumuler des richesses, on se fait une prison quelque part. Puisque déjà, on devient égoïste, avare, mais en plus, là, on ne sait plus quoi en faire. On ne savait plus quoi faire de toute la richesse. Vous imaginez quand même ? C'est terrible d'être riche à ce point-là. Et toutes ces richesses se dégradent. Alors, si on pense aux richesses agricoles, c'est bien d'entasser le blé, mais à un moment, il va moisir parce que je n'en ai pas besoin d'autant. L'idée, ça aurait été plutôt de le donner à ceux qui en avaient besoin. Mais non, ils préfèrent le laisser moisir, se corrompre chez eux. Les vêtements qui sont rongés par la teigne, c'est pareil. Hein. Quand on a trop de vêtements, à un moment, on ne va pas les utiliser tous les jours. Donc on peut les donner éventuellement, les partager. Hein, mais si on ne les utilise pas, ils vont se dégrader avec le temps. C'est bête d'avoir énormément de vêtements. J'avais envie de dire de chaussures, mais là je pense à des femmes, mais qu'on n'utilise pas. Je vais me faire lyncher tout à l'heure. Mais je pense qu'ils en avaient beaucoup plus que vous, à mon avis. Et l'or et l'argent qui rouillent, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des banques comme nous, on a aujourd'hui. Hein. Ils devaient accumuler ça quelque part, mais à force, la rouille venait. Et si on ne l'utilisait pas, ça ne servait plus à rien à la fin. C'est quand même terrible d'avoir autant d'argent en sachant qu'à côté, il y a des gens qui meurent de faim. Terrible, quand même, quand on y pense. On rappelle l'homme riche et Lazare, c'est exactement ça. La deuxième chose qu'ils reprochent, et leur négligence, c'est de négliger les pauvres, justement, en laissant pourrir ceux qui auraient pu leur servir. Ces richesses sont inutilisées et forcément vont pourrir. Calvin disait « Dieu n'a pas destiné l'or à la rouille, ni le vêtement au mythe, Au contraire, il les a créés pour servir la cause de la vie. Si Dieu donne des richesses, même, je dirais, aux païens, quelque part, c'est pour servir au moins la cause de la vie, pas forcément le royaume, mais au moins ceux qui en ont besoin. Vous imaginez que ça aurait pu servir des gens qui sont morts, leur donner à manger, à boire peut-être, les vêtir. Mais non, on préfère le garder par égoïsme, peur que peut-être on n'en aura pas assez pour l'année prochaine. Et pendant ce temps-là, ben, il y a des situations difficiles, et des situations tragiques même qui se sont réalisées. Peut-être qu'ils voulaient accumuler par sécurité. C'est ce que nous aussi on fait des fois en tant que chrétiens. On se dit, tant que le compte en banque va bien, je vais bien. Et généralement, on n'a pas besoin de crier à Dieu. C'est quand tout va mal, chômage, etc., que d'un seul coup, on se rend compte qu'on a un Dieu qui peut nous aider. Mais Dieu est toujours là. Et il ne faudrait pas se sentir en sécurité parce qu'on a un bon compte en banque. Vous n'êtes jamais en sécurité. La maladie, on ne peut pas la payer pour la soigner. Enfin, dans notre pays, on a la chance d'avoir un système qui nous aide à payer certaines choses, dans d'autres, non. Donc là encore, on est riche quelque part quand on y réfléchit. Et on râle, et on râle. C'est triste. On devrait être reconnaissant plutôt. Mais négliger le pauvre, c'était bien triste. Je l'ai dit tout à l'heure, la loi mosaïque, justement, protégeait le pauvre et avait mis en place certaines choses pour les aider au fur et à mesure. Mais omettre les pauvres, c'est manquer profondément d'amour. C'est s'en foutre, en fait, des autres. Et ça, c'est bien triste. Et comment on peut s'en fiche de gens qui sont dans la misère ou dans la difficulté? C'est vraiment avoir un cœur dur. Donc, négliger le pauvre, c'est valable pour le chrétien aussi. Parce que peut-être on n'est pas très riche comme eux, mais parfois on s'en fiche du prochain aussi. Ah oui, il y a peut-être des pauvres des fois dans l'église, mais on n'y prête pas attention, on s'en fiche, on se dit il n'a qu'à travailler, il n'a qu'à faire autrement. Il y en a qui gèrent mal leur argent, là on est bien d'accord, mais des fois on peut aussi aider d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas forcément donner de l'argent, hein. Ça peut être assister d'une manière ou d'une autre. Nous aussi, des fois, on est négligent par rapport au prochain. On avait vu la semaine dernière que Jacques 4, 17 parle de ce péché par omission. C'est-à-dire qu'on sait des fois des choses, mais on s'en fiche. Et là, la Bible nous dit qu'on est en train de pécher. Donc si je sais que quelqu'un est en situation difficile dans l'Église, au moins, et en parler au conseil éventuellement, parce que des fois, on ne le dit pas, on a honte. Et si on le sait, allez voir le pasteur ou le conseil et dites-le. Et puis nous, on pourra peut-être éventuellement aider quelqu'un. Il ne faut pas laisser les personnes dans ces situations-là. L'Église ne donne pas de l'argent, mais on peut aider aussi d'une manière ou d'une autre. Mais négliger, c'est vraiment un manque d'amour, tout simplement. Troisième chose qui néglige ces riches, c'est justement de se dire que les derniers jours arrivent. Bon, à l'époque, hein, il y a eu 2000 ans depuis, mais Jésus va revenir un jour ou l'autre, ça c'est sûr, qu'on le veuille ou non. Et eux, ben, c'est leur richesse qui ont pourri, qui vont les accuser, tout simplement devant Dieu. La rouille, les trous, c'est pour dire à quel point ça a été bouffé par le temps, hein, ces richesses. Mais tout cela, au lieu de l'avoir distribué aux pauvres, ben c'est en train de pourrir. Et justement, Dieu va leur faire le reproche à un moment. Cette pourriture dont parle Jacques, c'est le symbole tout simplement du cœur qui est endurci. C'est un cœur dur qui n'a pas envie de partager ce qu'il a en trop. C'est un cœur qui est avare, égoïste. Et c'est la richesse qui le rend comme cela. Plus on en a, plus on devient comme cela. C'est triste, mais c'est une réalité, hélas. Alors des fois, il y en a qui, on entend des riches qui donnent quelques argent à droite et à gauche, mais bon, quand vous avez 5-6 milliards sur le compte en banque et que vous donnez 100 000 euros à droite et à gauche, excusez-moi, c'est comme si je donnais 1 euro à quelqu'un, c'est rien. S'ils donnaient toute leur richesse à l'église, tiens, des trichés, ça serait bien ça, hein. On pourrait redistribuer après à d'autres, éventuellement, mais laissez-moi rêver. Mais voilà, un jour, cette pourriture sera mise en face d'eux et ce symbole de leur cœur dur sera tout simplement reproché. Vous avez amassé des trésors dans un climat de parousia. Parousia, c'est la fin des temps, le fait que Jésus va revenir un jour. Le verbe en grec « amasser », c'est une grande prospérité, c'est garder entassé, emmagasiné. Vous avez emmagasiné toutes ces choses-là, mais un jour, ces choses vont vous accuser devant Dieu, tout simplement. Terrible. Pour le chrétien de l'époque, lui, ben, il pensait que c'était bientôt la fin des temps. Paul pensait que Jésus allait bientôt enlever l'Église. Il était un peu déçu, le pauvre. Nous aussi, on croit que bientôt Jésus va enlever l'Église, enfin j'espère. Vous y pensez le lundi matin? Non. Mais pourtant, ça serait bien d'y penser. C'est mieux que penser au patron qu'on va rejoindre bientôt. Hein. Enfin, c'est moins drôle. Mais eux pensaient que Jésus allait revenir. Donc, à quoi ça sert d'accumuler des tonnes de choses si on sait que Jésus revient demain? Ça sert à quoi? Vous croyez que vous pouvez emporter votre maison là-haut? Moi, je crois que la demeure là-haut, elle sera bien plus jolie que celle que vous avez. Faites le tour du propriétaire dans Apocalypse 20, 21, hein, vous verrez à quoi ressemble votre prochaine maison. À quoi ça sert de travailler comme des malades pour accumuler de l'argent si Jésus revient demain? Ça sert à rien, non? Pourquoi alors on est comme cela? Parce que dans notre cœur, peut-être, Jésus ne revient pas demain. On se dit, c'est beaucoup plus tard et vaut mieux que moi je profite de la vie en attendant qu'il arrive. Mais tout ça, on va le perdre le jour où il va revenir. Et c'est mieux de vivre dans cette idée que ça ne sert à rien de me fatiguer à un point pour avoir tellement de richesses, alors que finalement, demain, tout ça va disparaître, parce que je serai avec le Seigneur. Ou alors, si j'en ai, bah partageons-le avec ceux qui en ont vraiment besoin. Ça ne sert à rien d'accumuler ces richesses sont éphémères, me dit Jacques, et il est préférable de les investir tout simplement dans ce que Dieu voudrait faire sur cette terre. Puis dans un troisième point, il parle de ces richesses qui conduisent à l'injustice. Parce qu'être riche, c'est une chose, mais dans le contexte en tout cas, là, ils deviennent vraiment injustes. Ils disent « Les riches frustrent les pauvres de leur salaire ». Alors on est dans les années 70 après Jésus-Christ, et les propriétaires riches avaient de plus en plus de propriétés, et les petits exploitants se faisaient bouffer. C'est comme aujourd'hui, rien n'a changé, tout simplement. Mais ça, c'était bien plus terrible, je pense, à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi, on l'avait dit, le riche devait, par exemple, payer le salaire le jour même. Dans Deutéronome, il est dit, 24, il est dit, « Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et lui tarde de le recevoir. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » C'est bien d'être payé dans la journée. Ce serait chouette de refaire ça. Hein. Mais voilà, Dieu avait mis dans la loi ce commandement et le riche devait payer le salaire du pauvre parce qu'il savait que c'était absolument indispensable. Et ces gens-là le savaient. Ils savaient, ils connaissaient la loi. Mais Jacques dit que ces riches frustraient les pauvres de leur salaire. Non seulement ils sont trop riches, ils en accumulent une tonne, mais en plus ils ne payent pas ceux qui travaillent pour eux. À un moment, ça devient quand même terrible, hein, si on essaie de se mettre à leur place. Et en ne payant pas ces salaires, ils les frustrent. Le mot grec, c'est dépouiller, faire du tort. En fait, le pauvre qui ne recevait pas son salaire risquait de mourir de faim, tout simplement, et sa famille avec. Mais les riches, eux, s'en fichaient complètement. Ils préféraient les laisser mourir. Peut-être que nous, des fois aussi, on connaît des situations où on laisse faire. C'est un peu dommage. Bon, on est dans un système en France qui permet quand même de s'en sortir à peu près, encore que. Mais peut-être, des fois, on frustre Dieu de notre offrande aussi. Je ne vais pas faire comme dans les églises où il faut courir après les offrandes. Mais peut-être, dans notre cœur, des fois, on garde des choses pour nous, alors qu'on pourrait les partager avec le Seigneur, ou avec des missionnaires, ou avec, je ne sais pas, ce que Dieu veut faire dans l'Église en général. Nous aussi, on peut des fois frustrer Dieu, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas forcément l'argent, hein, dans bien d'autres domaines aussi. Mais ces riches aussi opprimaient les pauvres, au verset 6, hein, « Vous condamnez les pauvres par votre corruption. » Et non seulement ils ne payaient pas, mais en plus ils volaient les terrains, ils volaient les biens, et finalement les familles se retrouvaient sans rien du tout. Ça devait être quand même terrible à l'époque parce qu'il n'y avait pas de pôle emploi, il n'y avait pas de toute sécurité sociale et tout ça. Quand ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus rien. C'était fini. Ça existe hélas encore dans ce monde, aujourd'hui. Et c'était une pratique très courante en Israël. Hein. On ne se gênait pas d'aller piquer les choses du voisin. Déjà dans Amos 2, 6, il écrit « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. » Ça a été de tout temps comme cela. On est prêt à vendre n'importe qui pour simplement avoir un peu plus d'argent. Et le monde aujourd'hui n'a pas trop changé ses habitudes. On est prêt à tout. Virer des gens alors qu'on pourrait travailler, etc., etc. C'est bien triste. Vous avez tué le juste, dit Jacques, qui ne vous résiste pas. Parce que quand on est riche, on a tous les pouvoirs. On a aussi tous les avocats. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez une batterie d'avocats derrière et vous, avec votre petit avocat, vous n'arrivez même pas à payer? C'est déjà perdu d'avance. Hein. Mais non seulement ils ne payent pas les salaires et ces gens-là mouraient de faim. Hein. Et le juste là-dedans, en fait, ce n'est pas celui qui est justifié comme nous on l'entend. C'est simplement celui qui était pauvre et qui faisait confiance à Dieu. Il y a des pauvres qui ne sont pas forcément convertis dans le contexte, on est bien d'accord. Il y a 2 définitions du juste. Là. Mais le pauvre, lui, faisait confiance à Dieu. Et certainement, qui, comme il dit, crie à Dieu par rapport à cette injustice qui était faite à ce moment-là. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, ce pauvre? Il ne résiste pas. Et bien souvent, ils perdaient tout. Ils n'avaient pas les moyens de se défendre, sinon que demander à Dieu. En même temps, demander à Dieu, c'est quand même le meilleur des moyens, parce que Dieu peut faire des choses aussi. Mais des fois, on se demande qu'est-ce que fait Dieu aussi, parce qu'il laisse aussi faire des fois. Alors, je ne peux pas vous répondre pourquoi Dieu laisse faire. En tout cas, il fait bien les choses, ça j'en suis convaincu. Mais peut-être des fois, il nous permet aussi de nous retrouver dans des situations difficiles pour qu'on apprenne de nouveau à crier à Dieu. Parce que dans notre confort, le salaire tombe à la fin du mois, j'ai à manger, j'ai ma maison, ma voiture, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai besoin de demander à Dieu ? J'ai tout. C'est bien des fois de se retrouver dans des situations où on crie à Dieu parce qu'on se souvient qu'on reçoit à manger de sa part, on se souvient qu'on a des chaussures grâce à lui, un travail grâce à lui, etc. etc. Mais attention, dit Jacques, Dieu entend les cris des pauvres. Cette souffrance, cette misère qu'il y a dans ce monde, quand il crie à Dieu, Dieu l'entend. De toute façon, il voit tout, il n'a pas besoin qu'on lui dise, mais il entend en tout cas. Comme à l'époque, quand Caïn avait tué Abel, dans Genèse 4, 10, il dit « Qu'as-tu fait ?» Dieu parle à Caïn, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Dieu connaît toutes les situations dans ce monde-là. Il sait, il voit l'injustice, la justice que les hommes font. Et il ne faut pas hésiter, je pense que c'est ce que dit Jacques aussi, que quand on est pris dans l'injustice, on peut crier à Dieu. Généralement, on essaie de se débrouiller soi-même, on va au prud'homme, on va faire un tas de choses. Mais pourquoi pas crier à Dieu dans ces situations injustes ? Et on en connaît beaucoup, souvent. Le problème, c'est que, bien souvent, les réunions de prière sont désertées. Le dimanche, pas plus, mais on n'a pas le temps de prier ou de crier à Dieu, des fois, pour les situations des uns et des autres aussi. C'est important de le faire. C'est-à-dire, on peut le faire chez soi, oui. Mais quand on le fait ensemble, ça a plus de force, je crois, de le faire. Et ces cris arrivent devant l'Éternel des armées. Il aurait pu dire, les cris arrivent devant Dieu seulement. Mais lui, il dit devant l'Éternel des armées. C'est le summum, on pourrait dire, de la définition de Dieu, parce que l'Éternel des armées, c'est toute cette armée d'anges, toute cette capacité qu'il a d'agir par rapport à ses riches. Donc, il prie, il crie devant celui qui peut absolument tout. Et certainement qu'il y a un contraste là avec ces riches qui se croient tout puissants, mais qui ne peuvent absolument rien devant Dieu. Quelle chance on a d'avoir Dieu, tout simplement, et de pouvoir lui dire les choses, de plaider devant Dieu nos causes. On a la chance, non, quand on y réfléchit un petit peu. Allez voir l'homme, ouais, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous, l'homme ? Il peut un peu, mais Dieu, lui, peut absolument tout. Et justement, Jacques dit à ses riches, mais faites attention, vous ne vous rendez pas compte. Vous croyez en pleine sécurité, et même des fois, vous défiez Dieu d'une certaine manière, mais Dieu, il s'en fiche de vos richesses. Ce n'est pas ça le pouvoir. Lui, il est bien plus puissant que ça. Mais il n'a pas des gains, va les égarer. Ils n'ont pas besoin de Dieu et bien souvent maudissent tout simplement Dieu. Et peut-être que ces riches qui s'égarent, on est capable de les accuser. Mais peut-être que nous aussi, des fois, on s'égare, puisqu'on préfère des fois nos maisons, préfère nos loisirs, plutôt que de servir peut-être le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une maison ni avoir des loisirs. Ce n'est pas ça, mais je crois qu'ils prennent de plus en plus la place du service dans l'Église et de ce que le Seigneur veut nous donner un don et le mettre en pratique. Et c'est bien dommage, parce que le Seigneur voit aussi toutes ces choses-là. Un jour, on devra rendre compte de notre manière de vivre devant le tribunal de Christ. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie, de nos biens, de notre service, de notre don ? Qu'est-ce qu'on a bien pu en faire ? Alors on se dit aujourd'hui, c'est loin tout ça encore. Ça peut être demain, tout simplement. Et le Seigneur peut nous faire des reproches en disant, mais je t'avais confié quelque chose, qu'est-ce que t'en as fait ? Qu'est-ce que t'en as fait ? Comme c'est la rentrée, je relance un petit peu le bébé, on pourrait dire. On a chacun une place dans l'Église, c'est qu'on est peut-être nouveau aussi, n'hésitez pas à prendre le temps, à vous installer aussi, mais tout doucement, pensez aussi, qu'est-ce que je peux faire dans cette Église ? Et ne pas frustrer aussi Dieu de cela. Vous savez, un don, il a été payé à la croix aussi, nous dit Éphésiens. Le don que je peux mettre en place, le service a été payé aussi à la croix. C'est le goût du sang, quelque part. Et donc, il ne faut pas le négliger en disant « ce n'est pas important ». Priez le Seigneur et il vous montrera. Posez la question au conseil ou à moi et on vous guidera dans la mesure où on peut. Mais cherchez à servir le Seigneur. Ça peut être à l'extérieur aussi, par le témoignage, par un tas de choses. On peut servir le Seigneur. Mais Jacques accuse donc ses riches d'agir contre la loi et certainement en état de conscience. Il savait qu'il fallait aider le pauvre, donner le salaire le jour même, mais il s'en fichait complètement. L'argent, c'est tellement mieux que tout cela, n'est-ce pas ? Puis une quatrième chose que nous apprend Jacques, c'est que cette richesse conduit à une vie de débauche, hein, au verset 5. Une vie de volupté, une vie de délices sur la terre. Ah, ça c'est bon de bien vivre, n'est-ce pas? On veut tous bien vivre, non? Les mettre dans la disette? Bah non, on est tous comme ça. Mais là, je pense qu'on est quand même à un stade qu'on n'a pas encore connu. Enfin, j'espère en tout cas. La volupté parle de vivre dans les plaisirs, dans le luxe. Vous rentrez, il y a de l'or partout. C'est chouette, hein? Ça a quoi, un robinet en or? C'est fait pour donner de l'eau, hein? C'est dans les pays du Qatar et tout, tout est en or là-bas. Hein. Je sais pas, j'avais une fois un reportage, c'est horrible. J'avais envie de gratter dans la poche. Mais on est dans un tel luxe qu'on ne peut même pas comprendre et qui, finalement, un petit luxe de quelques années pour une vie éternellement dans l'enfer, c'est vraiment cher payé, hein, quelque part. Les délices aussi, le mot grec veut dire vivre délicatement dans le luxe d'une vie de douceur. On est bien pendant quelques années et puis finalement, on se retrouve loin de Dieu à souffrir. Et c'est bien dommage. C'est tout simplement faire plaisir à sa chair. La chair, on veut toujours plus. Mais là, le problème, c'est que en se faisant plaisir et en voyant les autres mourir, c'est là où ça devient terrifiant. Comment un homme peut arriver à un moment, s'en fiche complètement de l'autre qui souffre, pour que lui puisse vivre bien? C'est horrible, le cœur de l'homme. Alors là, on est peut-être dans un extrême, mais ça nous arrive aussi des fois à nous de s'en fiche de l'autre. Je l'aime pas, il m'énerve, il est pas beau, je sais pas. Et elle s'en fiche complètement de votre frère, de votre sœur, qui est peut-être des fois dans la difficulté. On aime bien souvent dire « c'est de sa faute, il avait qu'à pas ». C'est tellement plus simple. Mais si on connaissait la situation, des fois on dirait « c'est peut-être pas de sa faute ». Mais eux méprisaient totalement le prochain pour leur propre chair, leur propre plaisir. Le chrétien peut vivre aussi comme cela, dans un super confort parfois. Mais un jour, ce super confort va aussi plaider contre nous, il ne faut pas croire. Puisque le Seigneur nous a peut-être donné des situations confortable, mais c'était pas simplement pour nous enrichir, mais c'était pour aider d'une manière ou d'une autre l'avancement du royaume de Dieu. Donc si vous êtes riche, vous avez compris que le Seigneur attend des choses aussi de vous et de moi. Une autosatisfaction et non-préoccupation des autres, déclare Jacques, hein, ils sont rassasiés, ils sont nourris, dit le mot, hein, engraissés, vous imaginez, tellement gras, alimentés par toute leur richesse que quelque part, c'est comme les animaux, hein. Ils sont prêts pour l'abattoir, tout simplement. Le cœur est plein d'argent, tellement gras d'argent et de richesse. Et là, il fait une métaphore, évidemment, ils sont prêts, tout simplement, pour l'abattoir. Ils ont bien vécu sur la terre, ils ont vécu une vie égoïste, une vie qui est contraire, tout simplement, à l'amour de Dieu et, évidemment, du prochain. Et un jour, eh ben, ils vont payer toutes ces choses. Nous aussi, on l'a dit, c'est valable pour nous, hein. Notre abondance doit servir le royaume de Dieu. C'est fait pour être investi dans l'Église, pour les missionnaires, pour l'avancement de l'Église. Vous savez, si vraiment tous les chrétiens faisaient vraiment ce que Dieu demande, en particulier ceux qui sont riches, je crois que l'Église irait un peu plus vite. Il manque énormément de pasteurs en France. Pourquoi? Parce qu'aller dans l'Institut biblique, ça coûte cher. Je l'ai fait, croyez-moi qu'on n'a pas envie de le faire, c'est un gros sacrifice pour aller faire des études de théologie, puis former des pasteurs, etc. Ça coûte de l'argent, hein, il ne faut pas croire. Si on pouvait injecter tout cet argent dans cela, il y aurait de plus en plus de bons pasteurs, au moins, formés, parce qu'il y en a beaucoup qui se proclament eux-mêmes pasteurs, qui ne connaissent même pas la Bible. Enfin, vous voyez ce qu'on pourrait faire, un tas de choses. Et peut-être que Dieu se sent des fois frustré parce que ces choses ne peuvent pas avancer à cause de notre avarice, nous paraissent peut-être, ou de ne pas avoir compris. Je ne parle pas de nous, hein, je parle en général de l'Église, dans le monde. Les cœurs rassasiés au jour du carnage, hein, dit Jacques. Le jour du carnage, c'est évidemment ce jour où, comme les animaux hein, qui vont à l'abattoir, à la boucherie, ils vont être égorgés et vont mourir, tout simplement. Mais il compare ça, tout simplement, à ce jour de carnage dans l'Apocalypse, c'est Armageddon, tout simplement. C'est le retour de Christ sur la terre quand il va poser ses pieds en Israël. Ça sera le jugement dernier. Et là, tous les gens qui ont bien vécu dans le confort, qui ont dit « Dieu n'existe pas », sur Facebook, ben, ils vont voir que Jésus est sur la terre. Ça va faire drôle hein, de se dire « voir Jésus sur Facebook », parce que c'est comme ça qu'on regarde aujourd'hui, ou aux infos sur TF1 le soir. Info spéciale, Jésus a débarqué en Israël, il a posé ses pieds sur le mont des Oliviers, et il y a une grande guerre qui va se mettre en place. Ça va faire bizarre, non? On a l'habitude de regarder les infos, mais pas comme ça. Hein. Mais ça va arriver un jour. Et en plus, avec les réseaux sociaux, le monde entier sera au courant. Hein, vous vous souvenez le 11 septembre, quand il y a eu les détours, et ben, tout le monde était au courant très rapidement. Ce sera pareil. Mais là, je pense que ça sera encore pire, parce qu'on sera dans une situation aussi déjà de grosses tensions dans le monde et de guerre. Mais ça sera formidable. Et tous ces gens qui ont dit, ben, je veux pas de Jésus, Jésus n'existe pas. Alors faire drôle, hein, parce qu'ils ne pourront rien dire. Ça sera un peu notre petite vengeance à nous, quand on se moquait de nous. Bon, faut pas parler de vengeance, hein, mais on se comprend. Ben, vous voyez, on vous l'avait dit, on l'avait annoncé. On vous avait parlé de Jésus-Christ, vous n'avez pas voulu de Jésus-Christ, et maintenant, vous récoltez ce que vous avez tout simplement semé. Et tous ces riches, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur argent ce jour-là? Seigneur, je te donne 1 million pour rentrer dans le ciel. Qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Non. C'est pas par l'argent que tu vas rentrer, c'est pas par les œuvres, c'est par la foi, mais c'était trop tard. C'est trop tard. Finalement, l'argent, ça sert pas à grand-chose. Enfin, c'est utile pour vivre, on est bien d'accord, pour des choses normales, mais pas plus, finalement. Ces cœurs rassasiés sont prêts pour le jugement dernier. Ils sont comme du bétail, hein, il les compare, il est quand même un peu méchant, mais bon. Comme du bétail bien engraissé pour la boucherie, pour le jour du jugement. Et toutes ces richesses vont témoigner contre eux. Ils seront abattus, ils iront en enfer. Et là, ils pourront passer toute leur vie, toute l'éternité, à se poser la question, mais mince, j'aurais peut-être pu faire autre chose avec tout cet argent. Ça paraît logique de faire autre chose avec tant d'argent. Mais là, ça sera trop tard et ils vont le payer toute leur vie. Et à quoi a servi toute cette vie d'opulence et de bien-être pour passer une éternité en enfer? Excusez-moi, ça ne vaut pas le coup, honnêtement. Et peut-être nous, en tant que chrétiens, peut-être pas forcément avec les richesses, mais avec les richesses spirituelles que Christ nous a données, parce que là, on est pleinement riches, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on devra rougir devant le tribunal de Christ? Est-ce qu'on sera remis en question par le Seigneur par rapport à notre service, à l'argent qu'on avait peut-être, à bien d'autres choses dans notre vie chrétienne? Est-ce qu'on sera là à rougir devant le Seigneur? Ça va faire bizarre de se retrouver devant lui et qu'il va regarder notre vie, repasser tout ça. C'est pas pour remettre en question le salut, puisqu'on est sauvé, mais ce que j'ai fait de bien et de mal étant dans mon corps. Alors quand c'est le reproche d'un homme, c'est une chose, mais quand c'est le reproche de Jésus-Christ, et qu'il y a des récompenses au bout, là, il vaut mieux peut-être y réfléchir aujourd'hui, plutôt qu'à la dernière minute, ça sera trop tard à ce moment-là. Mais si on a déjà sauvé, ça serait déjà pas mal, mais pensons et réfléchissons à cela, parce qu'un jour, ça sera une réalité. Ça me paraît complètement flou et peut-être comme un rêve aujourd'hui, mais un jour, je serai vraiment face à Jésus-Christ et je serai évalué par lui. Je peux me rattraper encore aujourd'hui, alors faisons-le tout simplement et prions le Seigneur, demandons-lui pardon si parfois on est peut-être paresseux. Prions pour savoir ce que nous avons à faire avec lui et je suis sûr et convaincu qu'il vous répondra d'une manière ou d'une autre. Puisque c'est un commandement, tout simplement. Il nous demande de le servir. Donc Jacques avertit de cette vie qui est faite de débauche, en tout cas cette richesse qui mène vers cette débauche, qui finalement va mener à la fin au jugement et tout ça, c'est totalement vain. C'est tellement bien d'être riche. Mais à la finalité, cette finalité, c'est la vanité la plus pure qui soit. Ça sert à rien. Pour terminer, les choses n'ont pas changé avec le temps. Je crois qu'elles sont même pires. J'ai l'impression que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Une manière pire aujourd'hui et plus subtile de nous arnaquer ou de nous voler. Hein, et vous savez, aujourd'hui, tout se centralise. Il n'y a plus qu'une banque bientôt qui va gérer le monde entier. Et ça, on pense que l'Antichrist va l'utiliser. Mais quand on vous enlève votre carte bleue aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Encore, à l'époque, vous aviez un terrain, vous pouviez vous déplacer, peut-être chercher ailleurs, et essayer de creuser la terre pour manger. Mais si on vous retire aujourd'hui votre carte bleue, vous faites comment? Vous ne pouvez plus rien faire. Un jour, il y aura peut-être une puce aussi. C'est encore plus marrant, ça. Hip. Mais bon. C'est pire, c'est plus subtil, je crois. Et le diable est très ingénieux dans ce domaine-là. Et si vous n'avez plus d'argent, ça sera certainement, surtout dans l'Apocalypse, hein, enfin, quand on lit dans l'Apocalypse, c'est parce que vous vous opposez tout simplement à l'Antichrist lui-même. Et là, les chrétiens vont vraiment souffrir. Ils n'auront plus rien à manger. Ils seront persécutés. Ça va vraiment être un temps abominable. L'Église sera enlevée avant tout cela. Mais il y aura des gens, peut-être, qui étaient dans l'Église, qui ne sont pas nés de nouveau, vraiment, et qui, au moment de l'enlèvement de l'Église, vont dire « Ah, j'ai pas été enlevé, parce que j'étais pas né de nouveau réellement. J'étais là par tradition, d'une manière ou d'une autre. Mais le jour où l'Église sera enlevée, il y a 7 ans de tribulation, nous dit la parole, qui vont se mettre en place, et il faudra traverser tout cela, et ça sera vraiment pas drôle. N'amassons pas de richesses, ça ne sert à rien. Elles risquent de témoigner un jour contre nous au jugement. Les riches, c'est sûr, mais nous, en tant que chrétiens, on sait de quoi. On sait ce que Dieu veut que l'on fasse avec toutes ces richesses. Si on est aisé, bah, soyons tout simplement généreux avec ceux qui en ont besoin, avec le pauvre. Je ne dis pas avec celui qui se met des tonnes de crédits sur le dos et des choses comme ça, on est bien d'accord. Quand je vois la situation de quelqu'un, je veux quand même savoir comment il gère son argent avant. Je n'aime pas jeter l'argent non plus. Mais il y a des fois des situations où les gens ne le font pas exprès et se retrouvent pauvres du jour au lendemain. Et c'est une occasion de nous, qui avons peut-être les moyens de les aider, ou ensemble, de pouvoir aussi les aider par notre amour déjà, mais aussi par nos richesses ou le peu que nous avons. Soyons généreux avec le pauvre et vivons aussi dans la sainteté. Que cet argent, que ce confort ne nous pousse pas non plus à vivre dans l'opulence ou dans les voluptés et les délices. Quand on a une télé, je pense que ça suffit, c'est pas besoin d'en avoir 6 à la maison, on est bien d'accord. Les 6 télés qu'on va acheter en plus, on peut peut-être investir dans le royaume de Dieu. Une télé, ça suffit, hein, on est d'accord. On se comprend très bien. Investissons dans le trésor éternel du royaume. C'est ce que le Seigneur veut. Parce que au bout, ce que je mets là-dedans, moi je le récolterai, mais pour l'éternité. Faut pas oublier quelque part. Et si vous voulez vraiment devenir riche, eh ben c'est cette manière-là que le Seigneur nous a donné de devenir vraiment riche, c'est d'investir dans le trésor éternel. Et il ne s'agit pas d'être riche en argent, en pépette, hein, mais riche spirituellement. Et quand on est bien avec le Seigneur, on est bien en nous-mêmes. Quand on est bien avec le Seigneur, ça veut dire que j'ai aussi confiance en lui pour la vie, avec les hauts et les bas, les difficultés, les manques d'argent parfois, ou quand j'en ai trop. Mais quand j'ai le Seigneur, je peux compter sur lui. Et c'est ça le plus important, d'avoir la foi dans le Seigneur plutôt que dans mes richesses. Que Dieu nous aide. Si jamais vous devenez riche un jour, appelez-moi. Je saurai vous aider et vous conseiller avec Jacques, évidemment. Non, je rigole. Mais on s'est compris, le Seigneur veut que l'on investisse dans le royaume de Dieu. Que ce ne soit pas forcément avec nos richesses, peut-être avec nos dons, avec notre service, avec notre amour surtout. Et qu'il nous aide à trouver ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et ces avertissements tragiques, j'ai envie de dire, par rapport à ce monde qui s'enrichit bien souvent au détriment des autres. Et quelle tristesse de voir un cœur si froid, si dur, si avare, parfois si égoïste. Pardon si parfois le nôtre l'est aussi d'une manière peut-être moins grande, mais nous sommes aussi à notre niveau parfois égoïste et avare. Apprends-nous à investir les richesses que tu nous donnes pour ton royaume, pour l'Église, pour la mission, pour l'avancement justement de la parole dans ce monde qui en a tellement besoin, Seigneur. Apprends-nous à nous investir aussi avec nos dons, avec notre service dans ton Église pour te faire plaisir tout simplement. Prions pour ce monde qui compte bien souvent sur son argent et ce n'est pas forcément que le riche, même le pauvre parfois croit que parce qu'il sera riche, il n'a pas besoin de toi. Nous prions, Seigneur, que tu convainques ces gens de ton amour, de besoin qu'ils ont de toi et surtout du besoin d'être tout simplement sauvés par toi. Que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ. Amen.